Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Chantons ensemble la louange à Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret qui est au début du psautier français. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux. Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, nous sommes la famille à qui tu as donné la vie. Et pour célébrer ce Dieu qui nous donne la vie, je vous propose de prendre au psaume 95, la version B dans le psautier, « Réjouissons-nous au Seigneur ». Nous chanterons les trois premières strophes. Vous pouvez prendre place. Et puis après avoir salué ainsi ce Dieu qui nous appelle, qui nous rassemble, c'est chaleureusement que je voudrais souhaiter la bienvenue dans cette maison à chacune et chacun d'entre vous, quelles que soient vos convictions. C'est un service que nous nous rendons mutuellement, et bien d'être ensemble pour chercher la source de la vie. Et bienvenue en particulier à Héloïse Lataste et Jean-Pierre Capmail, qui ont souhaité faire une profession de foi parmi nous ce matin. Alors c'est ensemble, le père et la fille, qu'ils ont avancé cette année dans le domaine de la foi. Et donc c'est aujourd'hui, ils ont souhaité le dire, le manifester parmi nous. Merci. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon les paroles de l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu l'aimeras avec intelligence. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement que ces deux-là. Et face à cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière d'Ambroise de Milan au IVe siècle. Viens Seigneur, cherche ton serviteur. Viens, bon berger, cherche la brebis épuisée, perdue. Viens vers moi que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Car oui, tu peux trouver celui que tu cherches. Tu places sur tes épaules celui que tu trouves et ce fardeau n'est pas pour toi une charge, mais une joie. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis, viens toi-même et porte-moi. Toi qui es salutaire à ceux qui sont perdus, qui es le repos des fatigués, qui es vivifiant pour les mourants. Viens et il y aura le salut sur la terre et la joie au ciel. Viens, bon berger. Voici ce que déclare l'Éternel à chacune et à chacun directement au plus profond de son être. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer et vivre. Et déjà maintenant, Dieu se penche vers nous en Christ et nous dit « Lève-toi et va, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place. Alors oui, bienvenue tout particulièrement à Jean-Pierre et Héloïse, vous pouvez venir. Comme le Christ donc, nous a accueillis dans son Église, nous vous accueillons aujourd'hui en son nom et nous sommes vraiment heureux donc, de vous voir tous les deux dans cette foi qui est la vôtre, donc libre et responsable, courageuse et joyeuse. Alors nous sommes heureux pour vos proches, vous avez votre fan club qui est venu pour vous soutenir et puis en même temps, voilà, dans la joie de ce que vous vivez. Vous avez choisi l'église protestante, en fait, et en particulier l'oratoire du Louvre pour être votre église. Et votre cheminement personnel de prière, de foi, est quelque chose qui se poursuit aussi, bien sûr, en dehors de l'oratoire, heureusement. Et c'est l'ensemble, c'est cela qui permet donc cette beau cheminement. C'est une joie, un honneur pour nous que vous soyez ici, voilà, tous les deux. Alors, Héloïse est venue de loin, et puis Jean-Pierre est là assez souvent, donc vraiment, c'est une joie de vous avoir. Ce nouveau départ dans votre foi n'est pas marqué par un baptême, parce que nous ne refaisons jamais le baptême. Vous avez déjà été baptisé. Nous ne refaisons pas un baptême par respect pour les autres églises, puisque nous sommes complètement en communion, bien sûr, sur la grâce de Dieu, et que le baptême manifeste la grâce de Dieu, une grâce inoxydable, donc nous ne refaisons pas le baptême. Mais vos professions de foi, c'est une réponse à cette grâce de Dieu, à cet amour de Dieu, une confirmation de ce partenariat que Dieu espère faire avec vous et que vous voulez faire, que vous confirmez par votre foi. Alors vous avez découvert la foi, cheminer dans cette foi, dans cette réflexion. Alors peut-être c'est Jean-Pierre qui a commencé à découvrir la foi protestante, et puis voilà, dans ce beau partage, Héloïse voilà, a rejoint ce cheminement, mais d'une façon personnelle, différente, intime, en fonction de ce qu'elle a vécu, en fonction de ses proches aussi, en discutant, en lisant, en réfléchissant, en priant. Et donc, c'est ces belles rencontres, ces belles personnes, ces belles réflexions, cette fois, qui font que vous êtes là aujourd'hui, ce matin. Alors vraiment, grande joie pour nous tous. Et c'est Héloïse qui va commencer à nous dire un petit peu son parcours.
Mon premier contact avec la foi et l'idée de Dieu s'est fait à la fois au travers de celle de ma grand-mère, très présente, et qui a partagé avec moi son cheminement et ses principes spirituels, mais aussi par ma scolarité dans une école catholique. En parallèle de cela, j'ai toujours senti une liberté de choix et de foi que m'ont transmis mes parents. Mon école a donc entretenu ma foi, mais m'a aussi appris par sa pédagogie, son ouverture et la diversité culturelle des élèves accueillis, à concevoir la foi de manière large et personnelle. Malgré tout, je ne me reconnaissais pas tout à fait dans le cadre de cette foi catholique, et cela de moins en moins au fur et à mesure du temps. Je pouvais de plus en plus difficilement l'affirmer et l'assumer telle qu'elle était. Afin d'être en accord avec moi-même, j'ai peu à peu remis cette foi en question, afin de redéfinir ce en quoi je croyais. Mais j'avais l'impression que cette foi ne trouvait plus sa place nulle part, jusqu'au moment où mon père m'a parlé de l'Église protestante réformée, m'a appris à la connaître et m'a fait découvrir l'oratoire du Louvre. J'ai senti alors que ma foi pouvait y avoir sa place et qu'elle pouvait s'épanouir enfin en harmonie avec mon expérience, mon ressenti et mon vécu spirituel quotidien.
Alors merci beaucoup. Et notre Église n'a pas d'autre confession de foi obligatoire que de s'intéresser à la foi de Jésus-Christ. Et donc, c'est librement que chacun peut développer sa propre réflexion. Héloïse puis Jean-Pierre ont préparé indépendamment une confession de foi. Et puis, vous allez voir que, voilà, comme il y a quand même un esprit de famille, eh bien, ces confessions de foi se rejoignent, se tissent. Et nous avons choisi qu'il y ait les deux confessions de foi successivement. Vous pourrez ainsi mesurer ce qu'il y a de personnel dans chacune des pensées, et puis en même temps qu'elles soient ainsi conjointes. Alors ça sera notre confession de foi pour nous ce matin, donc je vous propose de vous lever pour vous unir du cœur à cette confession de foi d'Héloïse puis de Jean-Pierre, qui sera notre confession de foi pour notre communauté ce matin.
Je choisis la langue chrétienne pour réaffirmer aujourd'hui que je crois en Dieu. Je choisis donc ce mot de Dieu pour me faire comprendre de tous. Mais j'ai souvent eu ces dernières années des difficultés avec ce mot, cette désignation, ce concept, ce que je pensais qu'on se devait de désigner par là, et donc à affirmer que je croyais en Dieu. Mais au contact d'une religion et d'un vécu de la foi différent, comme celle de ma meilleure amie Nathalie, qui est musulmane, qui est présente aujourd'hui, et surtout au travers d'échanges de ressentis et de réflexions philosophiques avec mon mari Sylvain, qui est athée, également présent aujourd'hui, j'ai appris à me libérer de la notion de Dieu que je pensais avoir apprise et intégrée. Je me suis défait de ce mot et de ce que je pensais qu'il signifiait pour mieux me le réapproprier, pour en faire ma propre définition, afin qu'elle soit en accord avec mon vécu et mon ressenti spirituel. Je peux donc dire aujourd'hui que je crois en Dieu parce que je crois en une dynamique, un mouvement, une force qui nous pousse à aller au-delà des limites de notre individu et à nous dépasser, qui nous invite à aller vers l'autre, à partager, à donner de soi, voire à s'abandonner à lui. Je crois en cette force transcendante qui nous anime, en cette flamme intérieure capable de nous mettre en mouvement, en cette dynamique présente en chacun de nous, qui est toujours là même quand on ne croit plus en elle. Je crois au fait que cette force que nous détenons en nous est une infime partie d'un puzzle qui compose une force commune et universelle, qui fait que chaque être humain, au-delà des différences, peut se retrouver dans l'autre et accomplir avec lui des élans d'humanité et d'amour, de la taille d'une goutte d'eau à celle d'un océan. Et c'est en cela que je crois en l'Esprit Saint. Je crois en l'incarnation de cette dynamique et de cette force qui a pris la forme d'un homme au travers de Jésus pour nous montrer comment, à l'échelle de notre quotidien humain, ce mouvement d'amour pouvait s'exprimer et surtout se ressentir, se vivre, s'accomplir concrètement dans chacune de nos journées et chacun de nos gestes. Je crois aussi que Jésus fait partie, de manière ultime, de ces modèles philosophiques et spirituels qui contribuent, selon nos affinités, à nous inspirer dans notre quotidien pour incarner nous-mêmes à notre échelle cette force de vie.
Dans un souci de fidélité au message de Jésus, notre frère, en confessant ma foi ici, à l'oratoire du Louvre, je veux conjuguer évangile et liberté, foi et lucidité, doute et confiance. Je crois que Dieu est ce besoin irrépressible de dépassement et d'amour qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, à la rencontre des autres et du monde. Je crois que ce Dieu-là nous met en mouvement quand nous faisons du surplace, nous relève quand nous sommes à terre, nous ressuscite quand tout est mort en nous. Je crois qu'alors, le goût de vivre qui nous anime, l'énergie qui nous tient debout et nous permet de dépasser des obstacles apparemment hors de notre portée, de surmonter des difficultés objectivement au-dessus de nos forces, est ce que les chrétiens appellent l'Esprit Saint. Je crois que Jésus-Christ est notre frère aîné en humanité et qu'il a poussé ce besoin de dépassement et d'amour à un stade ultime, qu'ainsi il est allé bien plus loin que nous tous, s'est relevé quand il était à terre et est ressuscité. Je crois qu'il est à la fois notre compagnon de route et le chemin vers la vérité et la vie. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place. Héloïse et Jean-Pierre, ce moment est on ne peut plus important pour vous. Il l'est pour nous aussi, nous, membres de l'Oratoire du Louvre, car ce n'est pas simplement maintenant l'occasion de vous accueillir liturgiquement comme membres de notre Église. Il y a une sorte de mouvement de double reconnaissance. Je veux dire par là que votre présence ici est une manière d'attester que ce que nous prêchons est crédible, que notre manière d'incarner l'Évangile est somme toute assez fidèle à ce que vous comprenez de cet appel à tendre toute notre existence vers cette espérance que proclament les textes bibliques. Alors ce moment est en quelque sorte la dernière couche d'une grande et épaisse stratification, dernière couche pour l'heure, il y en aura d'autres qui viendront par la suite, mais peut-être qu'une archéologie est ce qui permet de mettre à jour ces différentes couches qui sont comme finalement un itinéraire spirituel qui met en évidence cette dynamique de la foi qui est la vôtre. Et Jean-Pierre, je vais maintenant vous laisser la parole pour peut-être retourner peut-être aux sources, à ce commencement qui débute votre parcours.
Au commencement, pour moi, il y eut les paroles dites à la messe et au catéchisme. On me disait que ces paroles étaient la parole de Dieu. Mais cela restait encore assez abstrait pour moi. Et puis, à la lecture personnelle de l'Évangile, petit à petit, la parole de Dieu s'est faite homme. Et le Jésus des Évangiles s'est incarné dans ma vie. Il m'a mis en mouvement, il a cheminé à mes côtés. Car ce Jésus-là m'a tout de suite parlé, interpellé, provoqué, parce que les paroles de vérité qu'il prononçait s'incarnaient dans sa vie. Mais est-ce les exigences de l'adolescence, l'influence de l'époque, la tiédeur, voire les contre-témoignages de l'Église de mon enfance? Le goût du mouvement s'est ensuite incarné sur d'autres chemins que ceux de la foi. Et Jésus est devenu comme un ami qu'on ne voit plus. Il est resté au fond de mon cœur, mais est sorti de ma tête et de mes préoccupations quotidiennes. Ainsi, je me suis installé pendant de nombreuses années dans un christianisme intellectuel, finalement assez confortable. Il m'évitait les remises en cause de la foi de mon enfance. Il me permettait de dériver doucement vers les rivages sympathiques de l'Église réformée de France, sans pour autant oser accoster, sauf pour rencontrer de manière très épisodique quelques autochtones. Depuis quelques années, la maturité venant, les interrogations sur le pourquoi de ma vie et sa fragilité m'ont poussé à reprendre mon chemin spirituel et à reprendre mon compagnonnage avec Jésus, mon ami d'enfance, par la lecture de sa parole et de sa vie. Et avec ces retrouvailles, l'envie de marcher à ses côtés m'a repris. Mais l'envie de marcher n'est pas la marche elle-même. Elle n'en a pas la saveur. C'est pourquoi, après avoir découvert le courant Évangile et Liberté, j'ai décidé, il y a quelques mois, d'incarner ma foi dans une rencontre réelle avec une paroisse réformée libérale. Les prédications en ligne du site de l'Oratoire du Louvre m'ont amené ici. Tout de suite, malgré certains aspects exotiques pour un ancien catholique, je m'y suis senti chez moi libre et en harmonie. Pour la première fois, j'ai réussi à résoudre ce qui constituait la quadrature du cercle pour moi, faire partie d'une communauté sans m'y sentir enfermé, limité, formaté. C'est pourquoi j'ai souhaité faire ici ma profession de foi pour, comme dit Michel Barlot, un autre transfuge catholique, transplanter ma foi chrétienne dans une terre fertile et y prendre enfin racine afin d'exprimer pleinement mon bonheur d'être protestant. Bonheur d'être inspiré par les textes bibliques à la lumière de prédications éclairantes. Bonheur de vivre un christianisme crédible et adulte, libéré des normes de croyance et de comportement. Bonheur de donner la primauté au service du prochain sur l'exactitude des discours sur Dieu. Bonheur d'être attentif aux questions d'aujourd'hui plutôt qu'aux réponses d'hier, et de traduire cet engagement au sein de la société. J'espère qu'ainsi, ce qui sera semé ici donnera des fruits utiles, car que vaut une foi qui ne donne pas de fruits ?
Comme nous sommes une communauté d'exégètes brillants, chacun aura reconnu une construction en forme de miroir, parcours d'Héloïse, confession de foi d'Héloïse, confession de foi de Jean-Pierre, parcours de Jean-Pierre. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait notre compréhension de la communauté. Je veux dire par là que nous ne visons pas l'intégration qui consiste à faire une petite place dans notre communauté, nous avons plutôt le souci de la communion, on pourrait presque dire Père, Fille et Saint-Esprit. Et alors, c'est la raison pour laquelle nous allons maintenant vous entendre tisser à la fois votre sensibilité, votre spiritualité, l'expression de celle-ci, et puis tisser aussi ce qui constitue les racines et votre environnement. Et je vous laisse là aussi expliquer de quelle manière cette communion va pouvoir se réaliser.
Nous avons choisi donc de conclure nos professions de foi, dont certains auront sans doute noté les convergences, par deux courts textes lus à deux voix, pour bien montrer que c'est vraiment une communion. Il s'agit de textes qui expriment une conviction commune, la nécessité absolue pour nous de l'ouverture à ce qui est extérieur, mais qui est pourtant indispensable à notre foi. Ce que ce que Laurent Gagnebin appelle le compagnonnage exigeant avec les autres religions et aussi avec l'athéisme. Ouvrir grandes les fenêtres de notre foi la renouvelle et l'empêche de tourner en rond. C'est aussi une manière de rappeler l'influence pour Héloïse de sa meilleure amie musulmane, Nathalie, et de son mari athée, Sylvain. Nous allons donc lire maintenant un poème issu du soufisme, qui est une forme poétique et mystique de l'islam, sur les réponses toujours surprenantes de Dieu à nos demandes.
J'ai demandé la force.
Et Dieu m'a donné des épreuves pour me rendre fort.
J'ai demandé la sagesse.
Et Dieu m'a donné des problèmes à résoudre.
J'ai demandé la prospérité.
Et Dieu m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler.
J'ai demandé du courage.
Et Dieu m'a donné des gens à vaincre.
J'ai demandé l'amour.
Et Dieu m'a donné des gens à aider.
J'ai demandé des faveurs.
Et Dieu m'a donné des occasions.
Je n'ai rien reçu de ce que je désirais.
J'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Nous allons lire maintenant un deuxième texte, qui est un texte du philosophe André Comte-Sponville, qui est un grand spiritualiste athée. C'est un texte sur ce qui, pour lui et pour nous, est l'essentiel du message de l'Évangile. C'est extrait de l'esprit de l'athéisme.
Ce que j'ai retenu de la lecture des Évangiles, c'est moins ce que Jésus dit sur Dieu ou sur une éventuelle vie après la mort que ce qu'il dit sur l'homme et sur cette vie-ci.
J'en retiens que ce qui fait la valeur d'une vie humaine, ce n'est pas le fait que la personne en question croit ou pas en Dieu ou à une vie après la mort.
S'agissant de ces deux questions, la seule vérité, c'est que nous n'en savons rien. Croyants et incroyants, nous ne sommes ici séparés que parce que nous ignorons. Cela n'annule pas nos désaccords, mais en relativise la portée.
Il serait donc fou d'attacher davantage d'importance à ce que nous ignorons, qui nous sépare, qu'à ce que nous savons très bien d'expérience et de cœur et qui nous rapproche. Ce qui fait la valeur d'une vie humaine, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'espérance, c'est la quantité d'amour, de compassion et de justice dont on est capable.
Héloïse, que Dieu vous bénisse et vous garde et que par cette bénédiction, vous soyez vous-même bénédiction pour ceux qui vous sont chers, dans votre foyer, et puis dans votre travail, dans votre cheminement, oui, que Dieu fasse rayonner votre amour, cette force de libération que vous avez, et puis cette joie que vous communiquez.
Jean-Pierre, l'Éternel accueille votre existence, il vous donne son esprit de sagesse pour que vous portiez du fruit, que vous en portiez en abondance, avec joie. Vous êtes béni au nom de l'Éternel, qui est la source de l'amour. Amen. Frères et sœurs, unissons-nous dans la prière. Oui, nous rendons grâce pour Héloïse et Jean-Pierre que l'amour les maintienne dans la joie de ce jour, de telle sorte qu'ils continuent à être des témoins actifs de cette puissance de vie capable de redresser les trajectoires accablées, tourmentées. Avec Héloïse et Jean-Pierre, nous exprimons notre reconnaissance pour les frères et les sœurs que nous recevons et qui forment ce que nous appelons l'humanité. Nous reconnaissons avoir besoin d'aide pour renouveler notre histoire et la rendre belle et claire à la lumière de ce que l'Évangile nous invite à vivre. Oui, Seigneur, aide-nous à augmenter notre foi. Amen.
Nos amis ont choisi comme texte pour la méditation d'aujourd'hui un passage de la lettre de Jacques. Et je veux bien relever ce défi avec joie, d'ailleurs, parce que ce texte est bien intéressant, assez original en fait, dans la Bible, et il permet d'interroger notre foi dans sa façon de vivre dans le monde. Jean-Pierre terminait en disant « Que vaut une foi qui ne s'incarne pas dans des actes ?» Mais ça interroge aussi notre protestantisme, bien sûr, et sa célèbre affirmation que les humains sont sauvés par la grâce seule et non par les œuvres. Donc, je vous propose d'entendre dans la lettre de Jacques, le passage qu'il nous propose, c'est au chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, bon appétit », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres ». Eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que, par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, « Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. » Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. Et Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers, pour les avoir fait partir par un autre chemin ? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter pour prendre un temps de respiration après cette lecture, de chanter dans le petit recueil « Louanges et prières » le cantique 278. Donc ce cantique, la foi renverse devant nous les plus fortes murailles en écho à ces murailles de Jéricho où était Rahab, la foi.
Thank you.
avec saint Augustin, nous prions Dieu. Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je désire servir, parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie, et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant pardon me convertisse entièrement, afin que rien ne s'oppose en moi à tes efforts pour me faire vivre. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, que j'aie en perfection l'amour et de toi et de tes enfants que tu me donnes d'aimer. La foi est souvent présentée comme un don de Dieu et non comme une option de la personne humaine. Et à mon avis, cette théologie pose deux problèmes. D'abord, cette idée est épouvantable pour celui qui aimerait avoir la foi et qui pense ne pas l'avoir ou en manquer. Car en affirmant que la foi est un don de Dieu, que dit-on à celui qui pense ne pas avoir la foi ? Qu'il n'est pas aimé de Dieu, peut-être ? Ou qu'il fait partie des personnes qui sont rejetées ou moins aimées par Dieu que d'autres. Donc c'est hyper cruel et cela donne une image absolument terrible de Dieu. Quel amour permettrait cela ? Quelle justice est-ce ? Le deuxième problème que pose le fait de dire que la foi est un don de Dieu et que ne serait pas le choix de la personne, c'est que ce n'est pas cohérent avec bien des passages des évangiles. Par exemple, quand Jésus dit « Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi, ayez foi en l'Évangile. » Il y a bien là un impératif, « Ayez foi. » Et souvent Jésus s'étonne du manque de foi ou de la petite foi de ses disciples. Et le sens même de la vie du Christ est d'inviter chacun à avoir foi en lui. Et donc, Dieu ne développerait pas ces trésors de pédagogie qu'il développe à travers les prophètes, à travers le Christ. S'il avait déjà forcé ses chouchous à avoir la foi, ça n'a pas de sens. La foi, à mon avis, est un choix personnel que l'on peut faire ou ne pas faire, que l'on peut travailler, que l'on peut approfondir, que l'on peut vivifier, et c'est à ce travail que nous appelle Jacques dans ce texte. Le don de Dieu, c'est autre chose, c'est la grâce. C'est la fin du chantage à la performance de la foi, à la performance de nos actes. L'amour de Dieu, comme tout véritable amour, n'est pas à vendre Il nous aimera comme une mère aime son enfant, que nous croyons en lui ou non, que nous soyons religieux ou non, que nous fassions plein d'œuvres généreuses ou plein d'erreurs. Et c'est cette grâce qui libère justement pour avoir la foi ou non. Nous avons, je crois, une attirance naturelle pour Dieu, une attirance naturelle pour ce qui est élevé et ce qui est beau. Et cela fait partie de notre nature, cela est un don de Dieu, oui, mais cette attirance n'est pas contraignante. Elle se manifeste dans multiples dimensions de l'être humain, de la personne humaine, et puis chacun a sa personnalité, son histoire, ses rencontres, ses blessures, ses dispositions. Certains ressentent la foi comme la présence de Dieu, et Dieu qui les garde dans son amour, et ils appellent cela la foi, et ils ont raison. Certaines personnes n'ont pas ce sentiment religieux, cette émotion religieuse, mais ça ne veut pas dire qu'ils aient moins la foi pour autant. La foi, qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est un attachement viscéral, passionné pour Dieu. Alors on peut être attaché par le sentiment, mais on peut l'être aussi par la pensée. Et même si l'on a une grande émotion religieuse, cela ne dispense pas, à mon avis, de se lancer dans une double recherche, qui est commune donc avec celui qui n'a pas spécialement le don de l'émotion religieuse. D'abord chercher ce qui nous semble être bien, le bien ultime, la justice ultime, car Dieu c'est ça en fait aussi. Et chercher ce qui est la source de la vie, une source transcendante de vie, de mouvement et d'être, comme le dit l'apôtre Paul, car Dieu c'est ça aussi. Et donc cette double recherche du commencement et de la finalité, de l'alpha et de l'oméga, comme dirait l'Apocalypse, c'est une recherche philosophique en fait. Elle devient une recherche théologique quand on accepte d'appeler Dieu cette finalité et cette source ultime. Et cette recherche est de la foi à proprement parler quand on y investit son être, quand on concentre ainsi sa pensée, son cœur sur l'objet de sa foi pour en vivre. Alors oui, la foi se choisit et elle se travaille comme on cherche un trésor, finalement, comme on fait la cour à celle que l'on aime. Et c'est pourquoi l'Évangile peut nous dire à l'impératif « Ayez foi en Dieu ». Et tout ce qui est fait par le Christ, tout ce qui est raconté dans les Évangiles est pour nous y inviter, nous aider à ça. Alors pourquoi donc est-ce que Martin Luther tenait tant à cette idée que la foi serait un don de Dieu? Parce qu'à son époque, il lui a semblé essentiel d'insister sur le fait que la clé du salut est tout entière en Dieu. Cette idée se voulait rassurante, finalement, une façon de nous dépréoccuper de notre recherche de notre petit salut personnel et de vivre enfin par la grâce, parce que la recherche de notre petit salut personnel, c'est encore en fait de l'égoïsme et pas de la grâce. Alors d'accord pour garder cette certitude de notre salut, d'accord pour avoir confiance entière en l'amour de Dieu qui nous sauvera et s'inspirer de lui librement et non par la carotte et par le bâton, comme dans tant de façons de présenter la religion. Mais pour le reste, c'est franchement discutable. Cette histoire de péché originel venant rendre l'homme incapable par lui-même d'aucun bien, pas même de regarder vers le haut sans l'aide de Dieu, sans que Dieu le force à avoir ce regard vers le haut, ça me semble très discutable. Voilà. Alors ça a été inventé, cette histoire de péché originel a été inventée par saint Augustin, que j'aime beaucoup par ailleurs, au IVe siècle. Mais je préfère sur ce point la théologie de l'apôtre Paul, disant que par notre observation de la nature, par la science, l'homme peut être amené à avancer dans la découverte de Dieu et que l'homme païen a naturellement une certaine conscience de ce qui est juste, bien sûr. Alors certains chrétiens ont remis en vigueur cette idée que la foi n'est pas un don de Dieu, mais c'est au prix de relativiser la grâce de Dieu, disant que oui, Dieu aime chacun, mais que cette grâce est comme offerte en cadeau et qu'il faut s'en saisir par la foi, que sinon on n'a pas cette grâce en fait. Et donc que la grâce de Dieu est limitée en fait par la bonne volonté de chacun. Cette liberté de choisir ou non la foi est alors utilisée encore comme une menace. Et voilà que la foi devient donc une œuvre qu'il faut accomplir pour avoir le salut. Et on retrouve ce chantage si efficace pour manipuler les foules, chantage à la vie éternelle. Au contraire, à mon avis, Dieu nous aime tels que nous sommes, celui avec une énorme foi rayonnante et vibrante, celui qui a une toute petite foi un peu rabougrie, vacillante, et celui qui se dit totalement athée. Alors pourquoi choisir d'avoir la foi s'il n'y a pas de menace à la clé? Eh bien, pour être en forme. Au moins, comme on développe les autres dimensions de son être, la santé de notre corps, notre intelligence, nos connaissances, notre sensibilité aux autres et ce qui est beau. Mais la foi, en même temps, transcende toutes les autres dimensions de notre vie concrète et elle change tout, dans la santé comme dans la maladie. Alors oui, la foi peut s'espérer, on peut la chercher délibérément, on peut la travailler, on peut l'affiner, et puis on peut surtout, je crois, la demander à Dieu. On peut commencer à prier alors même que l'on ne pense même pas croire encore en Dieu, ou si peu, et dire comme le père de l'enfant malade, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. » En fait, la foi se travaille d'abord comme ça, je crois, en parlant à Dieu tel qu'on l'imagine ou tel qu'on l'espère. Lui parler avec son cœur, lui parler avec ses têtes, sa tête, lui parler avec ses tripes finalement. Y mettre tout ce que l'on a en réserve de sincérité, de disponibilité, de transparence, puisqu'avec lui nous n'avons absolument rien à craindre, pas peur d'être mal vu et donc de nous montrer tels que nous sommes. Jacques détaille ici une façon de cultiver notre foi, de la rendre vivante, de la perfectionner, de la rendre féconde. Dans le chapitre précédent, Jacques insistait sur le fait que ce serait quand même pas mal que notre foi s'incarne, nous inspire des actes de justice et de bonté. Bon, évidemment, évidemment. Et Jacques est en cela, dans cet appel bien fidèle à son frère Jésus, car Jésus nous le dit souvent aussi, c'est pas simplement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ceux voilà, qui font la parole que Dieu leur donne. Mais dans notre passage de ce matin, c'est autre chose que nous propose Jacques, en fait, un autre statut des œuvres. Ce n'est plus la foi qui doit être comme l'acte, l'âme de nos actes, de notre vie concrète, mais c'est l'inverse, en fait, quand on regarde bien ce texte. Jacques nous dit « Comme le corps sans esprit est mort, de même notre foi sans les œuvres est morte. » Et donc finalement, la foi est comme un corps dont le souffle serait nos actes, nos œuvres. Ce sont nos œuvres, nous dit Jacques, qui pourront nourrir, qui pourront perfectionner notre foi, la rendre vivante et féconde. Et je crois que c'est une très bonne remarque, en fait. Et Jacques l'explique avec la petite parabole du pauvre affamé qui demande du pain et auquel le riche répond « Va en paix et bon appétit ». Alors par cette parabole, Jacques ne nous donne pas une petite leçon de morale élémentaire. C'est inutile car n'importe quelle personne qui a un peu de cœur, même si elle n'a pas la foi, ne va pas aller se moquer ainsi d'un pauvre en lui disant « bon appétit » alors qu'il a faim. Mais avec cette parabole, Jacques nous dit que si nous ne travaillons pas notre foi par l'action concrète, eh bien notre foi sera comme morte en nous-mêmes en fait. Et donc elle ne nous nourrira pas, elle ne nous réchauffera pas, elle ne nous abreuvera pas, elle ne nous donnera pas la paix. Pourtant, notre foi est pleine d'une source de paix, de nourriture, de boisson, de pacification. Mais elle nous laissera en plan, au milieu de notre détresse humaine, dans une sorte d'éclat de rire moqueur sous forme d'une bénédiction hypocrite. « Soyez en paix », nous dira notre foi, sans nous la donner. Et Jacques explique comment l'action concrète peut rendre notre foi plus vivante, et il le fait en tirant deux exemples de la Bible. Et c'est à ça que sert la Bible, de servir de miroir, de questionnement pour notre cheminement. Le premier exemple est Abraham. Il est persuadé d'avoir la foi, et que c'est par sa foi que la volonté de Dieu est qu'il sacrifie son fils sur l'autel, qu'il le sacrifie en holocauste. Alors Abraham, tout content, se met en route aussitôt, il cherche l'endroit propice qui se trouve être le sommet d'une montagne, il tend le bras pour sacrifier son fils sur un bûcher. Et il découvre à cet instant-là qu'en réalité, Dieu ne veut pas la mort de son fils. Alors un commentaire juif du IVe siècle, Genèse Rabba, explique que c'est Abraham qui avait mal compris, que Dieu ne lui avait pas dit « prends ton fils et égorge-le », mais prends ton fils et élève-le. Et il y a effectivement dans l'ordre initial cette ambiguïté, c'est le même verbe hébreu, Allah, qui signifie à la fois sacrifier en holocauste, on retrouve Allah dans holocauste, et faire monter. Et quand on regarde mieux l'ordre initial, mettant Abraham en route, on remarque que c'est Ha Elohim qui lui donne l'ordre d'aller transformer son fils en méchoui. Ce n'est pas Elohim tout court, Dieu en tant que personne, mais c'est Ha Elohim, c'est-à-dire la divinité. C'est donc la conception qu'avait Abraham de Dieu, c'est son idée de la justice ultime qu'il envoie sacrifier son fils. Dans sa foi, il lui a pu sembler normal, ça a pu lui sembler être même la justice ultime, que d'offrir son fils pour acheter une bénédiction éternelle. En tout cas, du début jusqu'à la fin, Abraham se concentre sur sa foi en Dieu et il se bouge. Au début, il sent plus ou moins, finalement, confusément, que Dieu lui demande quelque chose en rapport avec son fils, qui lui est confié pour qu'il l'aime, et que cela doit se passer vers le haut, finalement. Et il va en tirer des gestes et des paroles très personnelles qui ne sont dictées par aucune habitude. Jacques ne valorise pas ici l'œuvre pour l'œuvre elle-même, parce que ce qu'Abraham s'apprêtait à faire est absolument épouvantable, de tuer son enfant et de l'offrir à Dieu. Mais l'œuvre qui est mise en valeur ici, c'est celle qui va permettre à sa foi d'évoluer, heureusement. Si Abraham ne s'était pas bougé, s'il était resté dans sa tour d'ivoire, par sa foi seule, il aurait commis l'irréparable. Et ce tête-à-tête avec Dieu seul, par la foi, si l'on ne sort pas, peut vite tourner en tête-à-tête avec notre propre théologie, avec de bonnes intuitions et des approximations malheureuses, en fait. C'est dans la mise en pratique de sa foi qu'Abraham va pouvoir mettre à l'épreuve sa foi. Pas la mettre à l'épreuve au sens d'informer Dieu sur la foi d'Abraham, dont il était au courant avant que même Abraham le sache, mais au sens où la foi d'Abraham va être mise à l'épreuve, elle va être vivifiée, purifiée, approfondie. Et du coup, sa foi sera plus vivifiante au lieu de poser un vrai problème. Vivifiante pour Abraham lui-même et puis pour bien d'autres autour de lui et après lui. Et du coup, nous avons là, je crois, une mise en place de l'œuvre dans notre cheminement de foi pour la rendre vivante. Le deuxième exemple est celui de Rahab, la prostituée de Jéricho. Pour eux-mêmes, les actes de Rahab ne sont pas non plus tellement louables, et c'est pas cela que Jacques nous propose d'imiter. Parce que Rahab, elle va trahir son peuple au profit d'un envahisseur qui arrive, et elle se débrouille pour qu'elle et sa famille soient sauvées, sans un regard pour les autres concitoyens. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut lire cette histoire. On peut regarder plutôt la trajectoire de Rahab. Elle était païenne, prostituée, elle va devenir mère, et elle sera même l'ancêtre du Messie, du Christ, salut de Dieu pour tous les peuples. Et donc la démarche de Rahab est une recherche théologique, en fait. Comme quelqu'un qui lirait la Bible ou qui regarderait comment a vécu sa grand-mère. Rahab observe les traces de l'action de Dieu dans le monde. Elle découvre l'Éternel, le Dieu de ce petit peuple venu d'ailleurs. Elle note que ce Dieu a été source de cheminement extraordinaire pour eux. Et donc elle va se convertir. Elle adopte ce Dieu comme son Dieu et son espérance. Alors à ce moment-là, sa théologie est déjà plus affinée même que celle de l'Abraham de la première époque, puisque c'est vers l'Éternel, Yahvé, et non seulement Ha Elohim, qu'elle se concentre, qu'elle se tourne, mais sa théologie ne suffit pas finalement. Comme le dit Jacques, si la foi se limite à une simple croyance intellectuelle, elle est alors stérile. Et on peut même être un vrai démon, nous dit-il, en croyant que Christ est son sauveur personnel finalement. Pour Rahab, il ne s'agit pas d'affiner encore sa foi, sa théologie, comme dans le premier exemple. Mais l'exemple de Rahab nous invite plutôt à ce que nous croyons puisse enfin s'incarner vraiment dans notre être, s'incarne dans une trajectoire de vie. Et pour cela, Rahab, elle se concentre. elle se concentre, elle saisit la première occasion, même minuscule comme une graine de moutarde, de prendre contact avec cette foi incarnée, finalement. Et ce sera en recevant ces deux espions, bien qu'ils soient un peu lamentables, il y a quelque chose de cette foi qui est incarnée en eux, dans cette démarche, qui s'annonce. Abraham avait une certaine idée de la foi basée sur un début d'expérience personnelle en Dieu. Rahab, elle, a une démarche plus intellectuelle, elle se renseigne, elle se réfléchit, elle choisit. L'un et l'autre ressentent finalement une certaine attirance vers quelque chose de plus élevé, de plus vivifiant. L'un et l'autre travaillent leur foi par la mise en acte. Abraham avait tiré de son sentiment de la présence de Dieu une certaine idée de Dieu. Il va lui falloir aller au-delà de cette première idée. Alors cela ne risque pas d'arriver à celui qui est cantonné dans son cercle de personnes qui pensent toutes la même chose. Cela n'arrivera pas à celui qui ne confronte pas ses idées au réel, finalement, à la vie dans la multitude des cas particuliers. Parce que oui, on peut avoir des belles théologies, des belles éthiques, des belles morales, mais quand on le confronte à cas particuliers, ça fait bouger, ça fait avancer. Rahab était dans l'agitation, la frénésie d'actes mimant l'acte source de fécondité, mais ne rapportant pour elle à ce moment-là que de l'avoir, que de l'accumulation et non de l'être. Rahab aussi est enfermée à sa façon, dans ses remparts, dans les remparts de sa façon de vivre. Et c'est à l'épreuve de l'observation du monde extérieur, en se concentrant finalement ce qui arrive de beau et en cherchant la source de ce qui arrive de beau, en l'accueillant, qu'elle va découvrir autre chose. Et dans une sorte de vertige, elle aussi se lance par la foi dans des actes. Abraham quitte la sécurité de sa foi première, il quitte la sécurité d'un début d'espérance réalisée. Rahab quitte la sécurité de sa ville enclose de hauts remparts. Elle sacrifie son gagne-pain pour suivre, par la foi, son propre chemin avec quelques nomades. Vertige d'une foi en marche, d'une foi grosse déjà, d'une vie future inouïe. Cela par la concentration vraiment du cœur, de l'esprit sur ce Dieu qui nous fait vivre. Amen. Merci Jean-Dominique pour ce programme donc aujourd'hui de musique baroque à l'orgue. Et je vous propose de chanter donc le psaume 81 dans le psautier français. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse, les trois premières strophes de ce psaume joyeux. Vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces. Alors après ce culte, nous avons un repas de paroisse. Même ceux qui ne seraient pas inscrits peuvent venir manger ce délicieux repas qui se prépare en ce moment, donc au 4 rue de l'Oratoire. Nous avons à la sortie le clan des éclaireuses, des koalas qui ont préparé des gâteaux. Alors je crois que leur stand de gâteaux est du côté donc, de la rue Saint-Honoré. Et elle prépare cela bon, pour nous réjouir, mais aussi donc, pour qu'elle puisse toujours perfectionner le matériel donc, pour camper cet été. Demain soir, à 19h30, il y a le grec biblique débutant avec Aurore Mériot. Et puis à 20h, de 20h à 21h30, nous avons l'approfondissement théologique. Cette année, nous avons essayé d'approfondir un théologien donc, par mois. Et là, c'est Jacques Ellul. Et nous avons invité Stéphane Lavignotte, qui est un des spécialistes de Jacques Ellul, de venir nous en parler. Mardi après-midi, à 14h30, il y a le groupe biblique avec James sur Ézéchiel. Donc, c'est toujours à la maison presbytérale en face. Et puis, à 19h30, il y a le groupe d'étudiants et jeunes actifs qui se réunit, voilà, donc, toujours aux quatre. Vendredi, nous sommes invités à chanter avec le chœur, même si nous ne faisons pas partie du chœur. Il y a un chœur ouvert pour préparer le culte de dimanche prochain, qui sera donc présidé par James, avec la participation des enfants de l'école biblique. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande. Nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. Et l'offrande est un moyen, finalement, de témoigner de notre reconnaissance et de participer à la vie de l'Église. Bonjour, mademoiselle. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, merci pour tout ce qu'il y a de merveilleux et de bon dans notre vie. Merci pour tout ce qu'il y a de merveilleux et de bon en nous-mêmes. Merci pour l'immense source de résurrection qu'est ta présence dans notre vie. Tout cela nous donne la soif de te présenter ce qui nous inquiète et ce qui nous peine. Et nous voulons te présenter, penser à toi, penser grâce à toi en vérité, tous ceux qui souffrent, ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après une séparation, après un deuil, après un échec, après une maladie. Nous pensons à ceux qui sont en souci pour leur situation ou pour un de leurs proches. Nous pensons devant toi à ceux qui nous sont chers et à ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te les confions en particulier et nous te faisons confiance pour nous aider à avancer sur cette route. Unis par toi, notre Dieu, avec les croyants qui cheminent sur cette terre par la foi en Jésus-Christ, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse, toi, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacun de tes enfants, ô Dieu Sauveur.